Bienvenue sur Carrière de parents, le podcast qui décomplexe la parentalité dans le monde de l'entreprise. Je suis Delphine et j'accompagne au quotidien les services de ressources humaines et les dirigeants dans la réussite de leur projet parentalité pour leurs salariés. Dans chaque épisode, nous explorerons comment profiter au mieux de votre vie familiale et de votre vie professionnelle. Nous verrons ensemble toutes les solutions qui s'offrent à vous pour faciliter votre quotidien et vous permettre d'atteindre vos objectifs pro et perso. Pour cela, un jeudi sur deux, je vais partager avec vous des astuces et bonnes pratiques et vous présenter des personnalités au parcours inspirant. Mais avant toute chose, mettez le podcast dans vos favoris pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, j'accueille Anne Beson, écrivaine et coach en écriture. Anne fait partie de ses parents dont la maternité a complètement bouleversé la trajectoire professionnelle. Elle débute sa carrière en tant que prof d'anglais, mais après la naissance de ses enfants, elle se rend compte qu'elle s'épuise professionnellement et personnellement. Jusqu'au burn-out, qui va l'amener à complètement repenser sa carrière et sa maternité. Dans cette première partie, Anne nous raconte comment le burn-out s'est progressivement et insidieusement invité dans sa vie, jusqu'à atteindre un point de non-retour. Bonjour Anne.
Bonjour Delphine.
Je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode de Carrière de parents. Merci beaucoup d'avoir accepté.
Merci à toi.
Avec plaisir.
Merci à toi.
Alors, Anne, comme le veut la tradition, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Avec plaisir. Bah donc moi, du coup, c'est Anne Beson et je suis écrivaine et coach en écriture. Et ça, c'est ma deuxième vie professionnelle puisqu'avant, j'étais enseignante d'anglais. Mais je crois qu'on va en parler. Ah, et puis j'oubliais un rôle important, je suis maman de deux garçons. J'oublie toujours parce que c'est le métier le plus difficile, mais c'est celui pour lequel on n'est pas payé. Donc, je l'oublie, excusez-moi.
C'est ça, c'est ça. Ici, tu peux le dire en premier.
Ouais.
Il n'y a pas de souci.
C'est vrai. Mais tu vois, j'allais même l'oublier, honte à moi, ça commence bien.
Super, bon, merci beaucoup. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous raconter un petit peu ton histoire ?
Oui, alors, bah écoute, on va commencer par ma première vie professionnelle. Alors, dans ce cas-là, puisque moi, j'étais, comme j'ai dit, j'étais enseignante. Donc, j'étais enseignante d'anglais. Et j'ai fait ça pendant 15 ans. Et j'ai fait ça vraiment dans la foulée de... Ça a été mes études, si tu veux. Et en plus des études où j'ai pas eu de grosses difficultés. Donc, si tu veux, j'ai été enseignante à 24 ans. Voilà, donc dans la suite logique, j'ai même eu en fait l'agrégation. Alors, je dis pas ça du tout pour me vanter, mais c'est juste en fait pour replacer, parce qu'après, quand on va parler du changement, ben, ça rajoute un peu de pression, parce que l'agrégation, je sais pas si tu connais, mais c'est le concours qui est le plus haut, on va dire, dans l'éducation nationale. Au-dessus, y a rien à part si tu fais une thèse et que tu deviens professeur d'université. Donc moi, j'ai eu l'agrégation à 24 ans et donc j'ai commencé à enseigner. Tout de suite, on va pas se mentir, quand j'ai commencé à enseigner, je me suis dit « Ouh là là, c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête, il y a un petit souci. »
Quel âge avaient tes élèves ?
Alors, moi, j'ai fait 3 ans en collège-lycée, donc tu vois, l'âge collège-lycée, et puis très vite, donc au bout de 3 ans, je suis partie dans le supérieur. Donc, j'avais 27 ans et mes étudiants avaient entre 20 et 23 ans. Donc, j'avais très peu d'écart avec eux au début. Voilà, donc c'est pas évident à gérer, mais ça m'a jamais dérangé. C'était pas ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait, tout de suite, je me suis dit, je vais pas faire ça toute ma vie. Vraiment, tu vois, il y avait déjà un malaise, mais j'arrivais pas forcément à mettre le doigt dessus. Et puis, tu vois, j'étais quand même tout le temps stressée avant d'aller en classe, en cours. Mais je me disais, bon, bah, c'est normal, il faut du temps, il faut que je m'habitue. Au début, c'est difficile parce que t'as toujours les cours à préparer, t'es toujours en flux tendu, tu vois. Donc, je me disais, bah, c'est ça aussi, c'est la fatigue. Puis après, j'ai eu mes enfants. Donc, j'ai eu mes enfants à 30 ans, tu vois, j'ai eu mon premier. Et donc là, bon, bah ça rajoute. Et ça rajoute dans le côté de, tu te dis, bon, bah il faut garder son métier. Enfin, je veux dire, t'as un enfant, c'est quand même, tu vois, la pression. Même si y a le papa et le papa gagnait déjà bien sa vie à l'époque. Mais voilà, tu te dis, bah non, il faut quand même que j'ai mon travail. Donc, si tu veux, les années passent comme ça, un petit peu en mode... c'est pas que tu te mets des œillères, mais c'est que voilà, les années passent, enfin tu sais, t'es pris dans l'engrenage, et puis du coup tu te dis bon, ça va aller, tu serres les dents un petit peu, mais c'était ça, je serrais les dents, j'étais pas totalement heureuse. Mais il y a aussi cette façon aussi de dire bon, bah le travail finalement Bah, est-ce qu'on est censé être heureux au travail? Juste pour replacer le contexte, on était avant le Covid. Le Covid a changé énormément de choses hein, sur la vision du sens dans le travail. Avant, on n'en parlait pas forcément hein, de ça. C'était bon, voilà, c'était comme ça. Et donc, si tu veux, moi, je me posais pas toutes ces questions, en tout cas pas dans ces termes-là. Et donc, si tu veux, bah, j'ai fait 15 ans comme ça, jusqu'à ce que vraiment ça devienne très très difficile. Où vraiment, là, j'ai commencé à me dire, bah, non, en fait, je veux plus faire prof, mais qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Là, tu te poses la question existentielle de qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire? Parce qu'en fait, quand tu es prof, tu fais tu suis un parcours traditionnel. Moi, j'étais en anglais, donc j'ai fait anglais, lettres et civilisation. En gros, sur le marché du travail, tu te dis quelles compétences j'ai? Voilà, qu'est-ce que je peux mettre au service d'une entreprise? Enfin, moi, j'ai pas connu ça, tu vois, par quelques jobs d'été. Et donc, j'arrive comme ça au bout de, alors là, au bout de 12 ans, on va dire, où vraiment je me dis c'est plus possible. Et je tiens comme ça 3 ans supplémentaires en me disant, là vraiment, je peux plus faire prof, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc là, ça commence à vraiment tourner en boucle dans ma tête de manière pas très sympa, tu vois, c'est pas très positif quand tu commences à te dire j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Entre-temps, j'ai eu mon deuxième garçon. Donc la fatigue, je pense qu'on va en reparler de tout ça, mais la fatigue physique et morale s'accumule, la déprime par rapport au travail, et donc si tu veux, bah, ce qui fait qu'au bout de 3 ans comme ça, je fais un burn-out. Donc j'ai fait un burn-out en 2019, et là ça a été fin 2019, et là j'ai dit bah, je ne peux plus, voilà, je ne peux plus retourner au travail. Et là il a fallu affronter le changement et poser des choses.
D'accord, c'est-à-dire que là, donc, ça fait 3 ans que ça tourne dans ta tête, tu te questionnes, tu te dis, au début, bon, je me vois pas faire ça toute ma vie, et puis finalement, ça se transforme en quelque chose d'un peu épidermique, je peux plus.
Obsessionnel, c'était devenu une obsession. Tu veux tous les jours de me dire j'en peux plus, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai essayé moi-même de chercher, mais en fait, si tu veux, alors ça malheureusement, je pense que ça n'a pas beaucoup changé. En fait, il n'y a pas beaucoup de possibilités quand t'es prof. Donc je suis allée toquer aux portes où on me disait d'aller toquer, mais finalement, pour les voir se refermer systématiquement. Parce que, bah parce qu'il n'y a rien en fait, parce que s'il y a des choses qui se mettent en place, mais en fait, on t'offre pas de possibilité, bah, ne serait-ce que financière, tu vois, de te dire, bah, ok, bah, là, vous pouvez faire ça, mais ça sera pour votre poche. Ou alors, vous pouvez faire ça, on vous donne de l'argent, mais en contrepartie, il faudra rester 7 ans dans la fonction publique. Enfin, des trucs, si tu veux, où dès que je commençais à entrevoir un peu de lumière, paf, ça se refermait. Et donc, effectivement, ouais, pendant 3 ans, on peut dire que c'était devenu obsessionnel.
Et donc, du coup, suite à cette grosse période de 3 ans que tu nous décrivais, finalement, c'est cette impression de te sentir prisonnière et finalement d'être enfermée dans cette situation qui devait être oppressante, comment tu te sentais à ce moment-là?
Oui, mais c'est totalement ça. C'est vraiment l'impression, en fait, d'être, ouais, comme tu dis, en prison. D'ailleurs, moi, après, je l'ai bien appelé, enfin, même pendant, je l'appelais ma prison dorée, d'être dans l'enseignement, parce que bah, c'est ce côté de. C'est très confortable au niveau salaire. Tu as le même salaire qui tombe presque au centime près hein, chaque mois. Tu as les vacances, mine de rien, et tu as l'emploi à vie qui faisait rêver avant. Hein. Enfin, encore une fois, je fais avant Covid, après Covid, mais tu vois, à l'époque, ça faisait encore rêver. Donc, il y avait un côté comme ça, très prison dorée. Puis, il y avait l'autre enfermement qui était dans mon rôle de maman. Parce qu'en fait, c'est moi, j'ai fait un burn-out que j'appelle mixte, c'est-à-dire que c'était à la fois professionnel et parentale. Et là, donc, j'avais mes deux garçons et vraiment, j'avais l'impression d'être dans un long tunnel sans fin où tous les jours, en fait, tu fais les mêmes choses. Je prenais pas du tout de temps, enfin, pour moi, j'avais rien pour moi. C'est-à-dire que tout mon emploi du temps était calé sur mes enfants. Donc, dès que je sortais du travail, hop, j'allais les récupérer à la crèche ou à l'école pour le plus grand. Les vacances, bah, en fait, oui, j'avais des vacances sur le papier, mais en fait, les vacances, bah, je les passais avec les enfants. Tu vois, puisque tu as des vacances, donc tu te dis, ben, bah, je vais pas les laisser. T'es en vacances, donc tu t'occupes de tes enfants. Donc j'étais pris dans effectivement dans cet engrenage qu'on peut qualifier ouais de prison, de long tunnel, toutes ces images-là, et je voyais plus du tout comment m'en sortir en fait.
En fait, ce que tu nous décris là, c'est que comme ton emploi du temps te permettait de coller à celui de tes enfants, tu te laissais pas de place à toi-même. C'est-à-dire que tu
Exactement.
sortais du boulot, c'était tes enfants, tu arrêtais les cours pendant 1, 2 semaines pendant les vacances, finalement tu reprenais un autre travail, comme tu le disais tout à l'heure, pas rémunéré, et en fait c'était un cycle sans fin où finalement Anne, elle n'existait pas.
Exactement, je me suis complètement oubliée. Et donc forcément, enfin maintenant avec du recul, je me dis ça ne pouvait que mener à un craquage et à un burn-out parce que bah, quand t'as pas du tout de temps de pause, que ce soit physique et mental, hein, parce qu'il y a les deux, hein, les deux sont liés, bah forcément ça fait un cocktail qui est explosif, quoi, hein, ça c'est évident.
Et à ce moment-là, toi, t'es dedans, donc tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte parce que tu penses que tu t'écoutes pas ou tu penses que c'est dû à ce que la société attendait de toi. Pour toi, c'était logique finalement de tout mettre pour ton travail, pour ta famille, pour tes enfants. Et finalement, le temps que t'avais pas pour toi, en fait, il avait pas vraiment lieu d'exister. Est-ce que tu te rappelles un petit peu pourquoi tu t'es mis toute cette pression, en fait?
Ouais, mais je pense qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ma personnalité. Je suis comme ça, je suis une grosse bosseuse. Je culpabilise très facilement, donc je veux faire passer les autres avant moi. Donc il y a ma personnalité, mon éducation de reçue de mes parents, et puis comme tu le dis si bien, il y a aussi la pression de la société parce que je pense que ça existe encore, malheureusement. Il faut faire attention, mais c'est vraiment. Bah, ce que je dis toujours, c'est que par exemple, moi, je ne connais aucun homme à qui on a posé la question, comment tu fais le mercredi? Voilà. Enfin, et j'espère qu'il y aura des hommes qui vont écouter le podcast et qui vont dire, ah, mais si, mais moi, on m'a posé la question. Franchement, je serais vraiment rassurée parce que moi, vraiment, dans mon entourage, quand je pose la question, il n'y a aucun homme à qui on va poser cette question. Alors que les mamans, enfin, je veux dire, il y a pléthore de mamans à qui on pose la question, bah, tu fais comment les mercredis? Tu fais comment les vacances? Et ça nous retombe dessus, la pression. Et mine de rien, quand tu, bah, si tu dis, ah ben non, mais moi, je prends pas mon mercredi, ou voilà, ou moi, bah, les vacances, etc., ouais, tu vas être regardé de travers. Alors, je sais ce qu'on va me dire, et je sais ce qu'on dit aux mamans, on va leur dire, mais tu t'en moques. Mais tu t'en moques de ce que les autres disent, ou tu t'en moques de ce que les autres pensent. Ouais, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Un, ça fait retomber encore une fois la pression sur les épaules des femmes de faut que tu t'en moques. Bah oui, c'est encore un faut que faire quelque chose, tu vois. Donc ça remet encore une pression. Et puis c'est facile à dire. Moi, je dis toujours une image, la comparaison est peut-être bancale, mais tu vois, quand t'es un peu en embonpoint, ou voilà, quand tu vas dans les magasins de vêtements et que t'essayes des vêtements et qu'il n'y a rien qui te va. Et qu'il faut commander, et encore, on te regarde de travers, il faut commander une taille parce que tu es une taille un peu différente. Bah on a beau te dire, ah, mais il faut que tu. C'est pas grave, tu t'en moques du regard des autres, sens-toi bien dans ton corps. Bah oui, mais quand tu as la société qui te renvoie en permanence que, bah non, tu rentres pas dans les pantalons, ou tu. Bah, c'est pas facile. Et donc, c'est la même chose, en fait, quand tu es maman. Enfin, moi, je trouve que, voilà, il y a un côté, ouais, ok, je comprends le principe de me dire, bah, tu t'en moques de ce que les gens pensent. Mais au bout d'un moment, bah, ça pèse quoi, une personne, deux personnes, trois personnes qui te disent, au bout d'un moment, c'est compliqué.
Ouais, je suis très d'accord avec toi. Je rajouterai deux choses sur ce que tu as dit en premier. On ne demande pas à un homme comment il fait le mercredi. Mais moi, j'irai encore plus loin que toi. C'est-à-dire que si un homme dit à son patron, à son entourage, bah, je prends mon mercredi pour être avec mes enfants, c'est à double tranchant. Soit, waouh, c'est super, un homme qui prend soin de ses enfants. Ok, c'est juste normal pour une femme, mais c'est extraordinaire pour un homme. Ou alors c'est mais t'as pas une femme pour s'occuper de ça? Et je pense que la pression, je vois très bien de quoi tu parles. Je pense qu'effectivement les hommes la vivent d'une façon totalement différente, ce qui leur convient pas non plus. Et il y a vraiment une question à se poser là-dessus.
Je pense que, juste pour rebondir sur ce que tu dis, parce que je sais que ça c'est un débat entre guillemets que j'ai souvent avec les gens quand j'en parle, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on me dit oui, mais les hommes aussi ont la pression. Je dis oui, mais les hommes c'est un choix. Et effectivement, comme tu dis, l'homme qui va dire ah ben moi je prends mon mercredi ou je pars plus tôt parce que je vais chercher mes enfants à l'école. Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a un double tranchant selon l'entreprise dans laquelle ils sont, selon leur environnement familial, etc., et amical. Par contre, la société n'attend pas d'eux qu'ils le
Complètement.
fassent. Tu vois ce que je veux dire? Alors que les femmes, on attend encore d'elles qu'elles le fassent. Et le jour où il y aura de la pression ni sur les hommes ni sur les femmes, peut-être qu'il y aura encore les mêmes réactions, tu vois, de dire, ah bon, mais tu prends les mercredis, nanana. Mais le jour où il y aura les mêmes réactions face aux hommes ou aux femmes, mais que ils n'auront pas à se mettre la pression, tu vois ce que je veux dire? C'est différent. Donc pour moi, on est encore à un stade différent où la femme, on attend ça d'elle, alors qu'un homme, on n'attend pas ça de
Et
lui.
c'était mon deuxième point, tout à fait. Pour te donner un exemple très concret, moi, quand j'ai eu mon troisième enfant, tout le monde m'a dit, oh, ben maintenant tu prends un 80%. Ben non, pourquoi?
Le fameux 80%. J'en avais parlé à l'époque, j'avais un blog sur la maternité. C'est comme ça que j'ai dérivé vers l'écriture, mais j'en avais parlé de ça et j'avais dit le piège du temps partiel. Parce qu'il y a énormément de femmes, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a énormément de femmes qui se mettent à temps partiel avec l'arrivée des enfants. Elles ne voient que ça comme solution. Et donc le piège, c'est que bah, effectivement, tu te retrouves avec un salaire moindre. Moi, je vois dans l'éducation nationale, parce que moi, je l'ai pris, le 80%, hein, je me retrouvais, donc j'avais plus le droit de faire ben, d'heures sup, ce qui est normal, je veux dire, t'es à 80%, tu fais pas d'heures sup, donc t'as quand même une baisse de salaire. Finalement, tu te retrouves avec pas tant d'heures en moins que ça, parce que ben, les gens ont plus tendance parfois à dire, ah ben, tu peux bien faire ça, parce qu'il y a toujours des trucs à faire en plus pour lesquels t'es pas payé, donc tu te retrouves à faire les trucs en plus que personne veut faire, parce que eux, ils ont un max d'heures, donc... Et tu te retrouves effectivement après ben, à gérer plus ben, la famille. Et t'es crevé. T'es crevé encore plus et tu gagnes moins.
Ouais, c'est ça, double peine.
Double peine.
Moi, je crois complètement aux 80% pour prendre du temps pour toi.
Exactement. Sauf que qui le fait vraiment? Je suis
Bah
pas sûre
oui.
qu'il y en ait beaucoup. Je
Ah
suis
ouais,
pas
non,
sûre
c'est
qu'il y en ait
clair.
beaucoup. Vraiment.
Mais parce que ça fait culpabiliser aussi.
Complètement. Que tu gagnes moins et en plus tu vas te la couler douce, je mets des guillemets pour ceux qui voient pas. Tu vas te la couler douce. Alors là, mais moi, franchement, j'adorerais encore une fois s'il y en a qui écoutent et qui le font, mais bravo parce
Oui,
que
dites-le
vraiment.
nous, hein, si vous le faites et
Ah
que vous le
ouais,
vivez bien
mais
sans
génial. Ah
culpabilité.
mais génial, mais et puis j'espère. Enfin, moi, tu sais, là, je le dis, hein, j'ai 44 ans, donc j'appartiens encore à une génération un peu vieillissante. J'espère que les jeunes qui écoutent tout ça se disent, mais n'importe quoi, mais c'est complètement has-been. Mais je ne rêve que de ça, moi, qu'on me dise que ce que je dis, c'est n'importe quoi, tu vois, et que ça a changé complètement. Moi, voilà, je reste prudente. Moi, dans ma génération, ça reste comme ça, et je reste prudente sur les jeunes générations. Mais j'espère qu'on me dise que j'ai tort. Je n'attends que ça.
Oui, je comprends, je valide. Du coup, tu es dans cette ambiance où tu vois pas de porte de sortie. Tu te sens mal, j'imagine, oppressée, tu sais pas quoi faire, et puis il y a cette pression familiale aussi, et puis toute cette culpabilité, tous ces sentiments. À ce moment-là, ça devient pas l'idée de demander de l'aide, parce que tu as l'impression que tu peux gérer seule, ou parce que tu n'as pas conscience d'à quel point tu es en train de finalement arriver vers un point de non-retour.
Les deux. Les deux, et je crois que en parlant à d'autres personnes qui ont fait un burn-out, et puis en entendant des témoignages, je crois que c'est un schéma assez classique, c'est-à-dire que tu es pris dans un engrenage, c'est le cercle vicieux, et en fait tu t'enfonces, et tu te rends pas forcément compte. Parce que c'est vraiment, il faut comprendre, le terme hein, burn-out, hein, ça vient de l'anglais qui veut dire se consumer vraiment comme une bougie, quoi, tu vois, comme de l'intérieur, tu te consumes. Et donc, c'est vraiment cette image que c'est vraiment pas du jour au lendemain, c'est petit à petit, c'est hyper vicieux.
C'est
Donc, c'est
insidieux, en
petit à
fait.
petit. Ouais, c'est complètement, c'est ça. Et donc, tu te rends pas compte. C'est-à-dire que, et puis, on te définit le burn-out comme un épuisement. Enfin, t'es épuisé. Alors là, je parle vraiment pour les mamans, hein. Je parle pas du burn-out en général, mais je parle pour les mamans. Mais tu n'es pas fatigué quand? Enfin, je retourne la question à l'envers, tu vois. Je veux dire, t'es fatigué tout le temps. Alors quand est-ce que tu commences à te dire, ah ben là, je suis un peu plus fatiguée que normal. Bon, donc tu te rends pas compte. Voilà, la fatigue s'installe jusqu'à devenir de l'épuisement. Et puis tu pleures une fois. Bon, tu pleures une fois, puis deux fois, trois fois. Et puis tu te rends compte que tu commences à hurler tout le temps. Que tu commences à. Moi, ce qui m'a fait le plus bizarre, c'était d'avoir perdu le goût pour tout. Il n'y avait plus rien qui me faisait envie, plus rien qui me faisait plaisir. j'avais plus d'envie, tu vois, de but, de me créer des objectifs. Donc là, c'est vrai que là, tu commences à te dire, waouh, c'est bizarre. Et effectivement, de toute façon, ouais, j'aurais pas demandé de l'aide parce que parce que je suis encore, je parle au passé, mais je le suis quand même, faut bien avouer les choses. Comme je disais, je suis bosseuse et puis on m'a appris, tu te débrouilles seule, quoi. Moi, on m'a quand même dit plusieurs fois, t'as fait des enfants, tu les assumes.
C'est un choix.
T'as fait des enfants, tu les assumes. Et puis mes enfants, mes garçons, moi j'ai deux garçons, c'est des profils un peu voilà, particuliers, donc ils sont pas faciles. Ça aussi, c'est tabou, parce qu'il faut toujours dire que les enfants, ils sont tous pareils, ils sont tous faciles. Non, ils ne sont pas tous faciles. Ils ont chacun leur personnalité. Il y a des profils particuliers, mais ça ne se dit pas. Moi, mes enfants, mes deux garçons, ils ont des profils particuliers. Bah, ça ne gère pas aussi facilement. Donc, si tu veux, l'entourage, c'était quand ils les voyaient, bah, ouais, c'est vrai qu'ils sont pas faciles. Hein. Bon, allez, bah hop, allez, on vous les rend et puis débrouille-toi. Et quand je disais, bah oui, mais moi, voilà, je suis fatiguée, tout ça, bah ouais, t'as fait des ans, tu les assumes. Tu les assumes. Puis nous, on commence un peu à vieillir, donc nous, on n'a pas non plus envie. Enfin, tu vois. Donc demander de l'aide, oui, à qui, je ne sais pas. Tu vois, c'était ça aussi, c'était de me dire, bah ok, là, je vais pas bien, mais je demande de l'aide à qui. Mon mari, hyper volontaire, mais pas présent parce qu'un métier est très prenant. Donc, tu te retrouves un peu face à une situation où, comme je te dis, c'est le cercle vicieux où où tu commences à te dire, ouais, les moments de lucidité où tu te dis, effectivement, là, ça va pas, mais je demande à qui? À des amis qui sont dans la même situation, qui en ont aussi, tu vois, qui ont deux, trois enfants, qui sont fatigués aussi. Maintenant, avec du recul, je vois des choses, mais sur le moment, pour répondre à ta question, non, je voyais pas de porte de sortie, quoi.
Et en fait, tu t'enfonces lentement, 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 et puis un jour, il y a un moment où il y a un truc qui
Le
explose.
corps craque. C'est le
OK?
corps. Le corps craque. C'est vraiment le burn-out. C'est ton corps, il te dit stop. Ta tête te dit non, non, attends, là, il faut y aller. Tu peux pas t'arrêter. Mais le corps. Moi, j'avais
Je
vraiment
vois.
cette impression où le corps, il te dit fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais moi, je n'y vais plus. Moi, je bouge plus, c'est stop. Et c'est très bizarre comme sensation parce que tu as vraiment cette sensation-là, tu vois, de ton corps, il se met en mode arrêt.
Tu te rappelles de ce moment où là, ton corps a dit stop? Tu te rappelles le moment exact, comment tu t'es
Oh
sentie?
oui, tu peux pas oublier ces moments-là. Je crois que personne, tous ceux qui ont fait un burn-out, ne peuvent pas oublier ce moment-là. Moi, j'étais dans mon bureau, parce que donc quand tu es dans le supérieur, souvent tu as un bureau. Donc j'étais dans mon bureau, et puis une matinée normale, hein, donc j'étais pas heureuse d'aller au travail, mais j'y étais, quoi. Donc je faisais, et puis un collègue qui passe, qui me dit bonjour, bon, il s'en va. Et là, crise d'angoisse. Crise d'angoisse. J'avais jamais fait de crise d'angoisse. Je ne le souhaite à personne. C'est-à-dire que j'ai commencé à plus pouvoir respirer. Donc, j'ai commencé à. Les larmes ont commencé à couler sans que forcément. Enfin, sans que je puisse contrôler quoi que ce soit. L'air me manquait. Donc, je ne pouvais plus respirer. Le cœur qui s'emballe. Et là, j'ai cru que j'allais mourir, en fait. J'ai cru que je faisais une crise cardiaque. J'ai cru que j'allais mourir. Vraiment. Je ne pouvais plus respirer. Je ne sais pas comment j'ai fait et je n'aurais jamais dû le faire, mais j'ai pris ma voiture et je suis partie parce qu'en fait, je voulais pas qu'on me voie. Je voulais pas qu'on me voie comme ça. Parce que tout de suite, j'ai eu conscience que c'était pas normal, tu vois. Enfin, voilà. Moi, en plus, pleurer en public, j'ai beaucoup de mal. Surtout qu'avant, j'avais quand même pleuré dans le bureau de mon chef pour quémander un 50%. Donc, j'étais à 80% et je voulais un 50%, me disant que c'était la seule solution. Et en fait, ils m'ont regardé de haut en me disant, mais ça ne se fait pas. Et donc là, j'ai craqué. Donc je voulais pas recraquer une deuxième fois devant les gens, tu vois. Donc j'ai pris mes clics et mes claques. Je ne sais pas comment j'ai fait, encore une fois. C'était hyper dangereux, mais voilà, je suis repartie chez moi. Alors, je suis à 10 minutes, mais quand même. Et donc je suis arrivée chez moi. J'ai réussi à envoyer un message à mon mari, qui est vite arrivé, qui a compris que je faisais une crise d'angoisse. Donc, qui a réussi à me calmer en me faisant respirer dans un sac, en me donnant une petite pilule pour me calmer au niveau des nerfs. Et là, ben, quand j'ai repris mes esprits, quand j'ai réussi à respirer normalement, et là j'ai dit la phrase, j'ai dit, ben, c'est fini, je peux plus y retourner. Et je n'y suis plus jamais retournée. Je suis partie comme ça, j'ai tout laissé en plan. J'ai pas récupéré mes affaires parce que je suis incapable de mettre un pied dans l'établissement. J'ai jamais pu. Et voilà, et ça a été fini, ça a été, j'ai tourné la page.
Ok. Et aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qui t'a manqué pour éviter ce burn-out?
Bah, de le prendre beaucoup plus en amont. C'est-à-dire que vraiment, en fait, de me rendre compte que avant, et c'est ce que je dirais aux personnes, c'est-à-dire que avant d'avoir mes enfants, de réfléchir à mes ressources internes et externes. Donc, interne, c'est de bien te connaître. Moi, à l'époque, je ne me connaissais absolument pas. Ça, je dirais que l'entrepreneuriat, depuis 4 ans, c'est un développement personnel puissance 1000, hein. Donc, c'est génial, t'apprends à te connaître. À l'époque, je ne me connaissais pas parce que j'avais pas pris le temps, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait spontanément, parce que tu vois, enfin voilà, donc je me connaissais pas vraiment, et du coup j'avais pas pris conscience que mes ressources internes, elles étaient limitées, dans le sens où moi je suis hypersensible. Donc pour ceux qui connaissent l'hypersensibilité, ben, l'hypersensibilité fait que t'es fatigué plus vite que d'autres, par exemple, tu vois, que tu vas tout prendre comme une éponge, que voilà. Et donc ça, j'ai pas pris conscience de ça, je ne le savais pas. Les ressources externes, eh ben, de me rendre compte que ouais, on n'avait pas un entourage qui allait être très présent. Voilà, ça j'aurais pu le deviner, enfin je le savais, mais voilà, j'en avais pas pris conscience. Et donc c'était, bah c'est pas grave, je vais tout assumer. Et donc si j'avais pris conscience de ça en amont, j'aurais pu préparer les choses mieux. C'est-à-dire de me dire, bon bah, de réfléchir déjà à mon travail. Est-ce que j'anticipe? Parce qu'au début, j'ai pas pris un temps partiel. Alors, on en a parlé, le temps partiel. Attention, mais bon, est-ce que ça aurait été la solution? Peut-être, au début, je ne sais pas. Ça aurait peut-être permis de faire une transition plus douce, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est de prendre quelqu'un à domicile. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, sûr et évident. De prendre quelqu'un à domicile et de ne pas caler tout mon emploi du temps sur celui des enfants. Voilà, pour m'octroyer du temps pour moi. Voilà, ça c'est des choses que j'aurais pu, j'aurais dû, je vais pas me faire peser encore la pression, mais donc c'est des choses, donc ce qui m'a manqué, tu vois, c'est de la clarté sur la situation
Oui, de la
et
clarté
d'anticiper.
et puis la connaissance de ce que c'est le burn-out, parce que c'est pas quelque chose dont on parlait énormément à l'époque.
Non, quand j'en ai fait un, hein, on commençait, tu vois, à en parler, parce que c'est l'ironie de la vie, c'est toujours, c'est moi, j'aime bien la vie parce qu'elle envoie toujours des petits messages comme ça et des petites leçons, c'est que je voyais pas mal de documentaires. À l'époque, on commençait à en parler, mais c'était effectivement avant le Covid, on en parlait moins, mais on commençait à en parler un peu. Mais c'était, en fait, si tu veux, je me suis pas reconnue parce qu'à l'époque, c'était surtout soit burn-out pro. C'était beaucoup burn-out pro. Burn-out parental, on commençait à en parler, mais c'était encore un peu tabou. Et moi, en fait, c'est ce que je dis, c'est que c'était un burn-out mixte. C'était boulot et maison. Et donc, du coup, je ne me reconnaissais pas. Parce que dans le burn-out pro, c'était bah, beaucoup des CEO ou des entrepreneurs hyperactifs et tout. Donc, moi, je dis, attends, mais moi, je suis prof. J'ai pas le droit de faire un burn-out, je suis prof. Non, mais tu sais, avec cette étiquette quand même, hein, les profs sont pas bien vus parce qu'il y a ce côté, oh ouais, mais t'es en vacances ou tu viens de l'être? Bah oui, donc voilà, donc tu te dis, bah t'as pas le droit d'être fatigué, tu vois. Et puis, d'un autre côté, quand je voyais les rares reportages sur le burn-out parental, bah c'est pareil, c'était soit des mamans au foyer, ou alors des mamans qui avaient 3 enfants, ou je me reconnaissais pas, tu vois. Non, donc pareil, je me disais, bah j'ai. Non, c'est pas ça, j'ai pas le droit, ça peut pas être ça. Donc, je me suis pas reconnue, si tu veux, dans les rares messages, dans les rares documentaires que je voyais sur le burn-out. Donc, ça ne m'a pas aidée, ça.
Dans le prochain épisode, Anne nous racontera comment elle a remonté la pente grâce à l'écriture. D'ici là, je vous souhaite de passer de joyeux moments en famille. À très vite!